France Inter.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Plébiscité par les consommateurs, les plateformes chinoises Chine et Temu dans le collimateur de l'Union européenne. Ouverture d'une enquête hier, projet de taxe sur les petits colis. On en parle avec nos invités à partir de 13h30. Un représentant de Chine sera avec nous. Et vous nous appelez 01 45 24 7000. Nous serons également dans un instant dans un centre de la Croix-Rouge qui récupère ses vêtements en bout de chaîne et qui n'en veut plus. À suivre encore, ces communes qui rallument l'éclairage public. Nous serons à Bordeaux. La mort de Paul Loup-Soulitzer, écrivain à succès dans les années 80. Avant la descente aux enfers, nous retracerons son parcours. Et puis Donald Trump qui persiste. Les États-Unis prendront bien le contrôle de Gaza à la fin de la guerre. Voilà ce qu'il écrit à l'instant. Bonjour Sébastien Logeni.
Bonjour.
Et cela donne des idées aux Israéliens.
Oui, le ministre de la Défense demande à l'armée de préparer un plan de départ volontaire des Gazaouis vers des pays comme l'Espagne ou le Canada. Une idée soutenue par les durs du gouvernement israélien.
A tout de suite. À suivre encore, le crime organisé imprègne l'intégralité de la société corse jusqu'au service de l'État. C'est un ancien préfet de Lille qui le dit. Mathieu Jalibert, titulaire à l'ouverture avec le 15 de France de rugby samedi en Angleterre. Fabien Galthié a dévoilé sa composition ce matin. Et puis l'intelligence artificielle. Bonjour Stéphane Jourdain.
Bonjour Jérôme.
Ouverture du sommet de Paris aujourd'hui. Et puis cette drôle d'expérience que vont mener nos confrères de France Culture.
Oui, une émission 100% fake avec des témoignages entièrement générés par une intelligence artificielle. Et vous verrez, on peut facilement tomber dans le panneau.
Vous nous expliquerez tout cela. 13h50, c'est la France, nos agriculteurs et l'Amérique, avec Marie-Luce Ribaud du journal Sud-Ouest. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson du flamenco. Le contrebassiste Renaud Garcia Fons demande Camarón de la Isla. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
70% des Européens font des achats en ligne. 12 millions de petits colis à faible valeur entrent chaque jour dans l'Union, soit plus de 4 milliards par an. Voilà les chiffres donnés hier par la vice-présidente de la Commission européenne pour justifier l'ouverture d'une enquête contre les plateformes chinoises, Chine et Temu. Dans ces petits colis, dont le nombre a doublé sur le continent en un an, beaucoup de vêtements à bas prix, dont la durée de vie est courte et qui terminent souvent dans les locaux d'associations qui se retrouvent noyés sous les dons, si bien qu'à Bergerac, la Croix-Rouge a décidé de ne plus les accepter. Valentin Plat.
Les sacs poubelles remplis de vêtements s'entassent par dizaines dans la réserve de la Croix-Rouge.
On n'a plus l'espace suffisant pour tout stocker.
Ça, c'est Thierry, un bénévole de l'association.
Là, ici, c'est plein. Tant qu'en chaussures, en robe, en chapeau, en tout ce que vous voulez, en blouson, il y en a de partout.
Alors qu'il charge un caddie en quelques secondes, juste à côté de lui, Cathy, c'est elle qui trie les vêtements.
Il y a cette tâche. C'est devant, donc personne ne l'achètera.
Déchiré.
Aussi, déchiré, décousu, oui, tout ce qui peut arriver. Sur un vêtement, on l'a.
La Croix-Rouge de Bergerac a même construit en urgence un nouveau bâtiment de stockage pour entreposer les sacs de vêtements impossibles à vendre. Alors pour Thierry, la faute à la surconsommation et aux produits pas chers venus d'Asie.
C'est le problème de nos sociétés modernes. Acheter toujours, 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 toujours plus. On voit quand même les limites. À peu près 70% de ceux qu'on reçoit qui ne sont pas vendables. Donc voilà, vous avez fait le compte.
Ils sont soit abîmés,
soit
de la mauvaise qualité.
Très mauvaise qualité. Si tout ce qu'on nous donnait était neuf, j'aurais pas de soucis.
Et si la Croix-Rouge retrouve un nouveau prestataire pour écouler ses stocks, les bénévoles prévoient aussi de faire trier les dons par les donateurs eux-mêmes pour les sensibiliser.
Reportage ici Périgord et on reparle de la plateforme d'e-commerce Chine avec nos invités, avec vous à partir de 13h30. C'est une nouvelle commune qui décide de rallumer l'éclairage après l'avoir éteint il y a 2 ans au plus fort de la crise de l'énergie. Et c'est une municipalité écologiste, celle de Bordeaux, qui va prolonger l'éclairage. Il ne s'arrêtera plus cet éclairage public à 1h du matin, mais à 2h30. Et ce cas n'est pas isolé. Ces dernières semaines, dans beaucoup de communes, des pétitions ont été lancées dans ce sens. En cause, le sentiment d'insécurité des habitants, en particulier des femmes. Bonjour Delphine Evenou.
Bonjour.
Nous verrons avec vous dans un instant si cette mesure est à même de faire baisser la délinquance ou pas. D'abord, allons à Bordeaux. Louise Buyens a rencontré des habitantes.
Quand on annonce la nouvelle à Marie, on devine le soulagement sur son visage.
Une femme seule rentrée chez soi dans le noir, dans un quartier qui n'est pas éclairé, on ne se sent pas du tout en sécurité.
Donc là, je suis contente effectivement que cette décision ait été prise.
Dans la rue de Maud, la nuit, c'est le noir complet, alors c'est mieux que rien.
C'est déjà un peu mieux, ouais. Bon, après, je peux rentrer aussi entre 2h30 et 5h, mais moi. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'agressions et de vols ou de choses comme ça, et du coup, ouais, c'est pas plus mal, ouais.
Pour Simon, la sécurité est importante, mais il faut aussi penser à l'écologie.
Il y a d'autres dispositifs qui pourraient être mis en place, comme par exemple des détecteurs de mouvement qui pourraient allumer à toute heure de la nuit eh bien, les éclairages pour faire en sorte que les passants puissent circuler en toute tranquillité.
Justement, la ville envisage de mettre des détecteurs sur tous les lampadaires. 500 en sont déjà équipés sur les 32 000 que compte Bordeaux. La mairie veut aussi mettre des LED partout, moins énergivores. On appelle ça le relamping, explique Laurent Guillemin, adjoint au maire en charge de l'éclairage public.
On passe de 500, 550 relamping par an à quasiment au double dans les prochains mois qui arrivent. Et presque au triple d'ici à partir de 2026.
Une accélération possible parce qu'avec l'extinction des lumières pendant 2 ans, la mairie a économisé plus d'1 million d'euros.
Reportage ici Gironde. Delphine Evenou, on a un peu de recul maintenant sur l'efficacité de ces mesures. Rallumer un éclairage public, est-ce que ça fait baisser non pas le sentiment d'insécurité, mais l'insécurité elle-même?
Eh bien Jérôme, on n'a pas de réponse tranchée à cette question. L'ouvrage de référence « Éclairage et sécurité en ville, état des savoirs » remonte à 2007. Et concluait qu'on ne peut rien conclure.
Bon.
On ne dispose pas en France de grandes études avec tous les chiffres de la délinquance par rue non éclairée et éclairée, avec un comparatif dans le temps. En 2022, une étude britannique a montré que les vols dans les voitures diminuaient dans les rues non éclairées, mais augmentaient dans les rues adjacentes, délinquance déplacée donc. En France, on peut regarder point par point. Il y a un an, la mairie de Bordeaux a fait un bilan. Entre minuit et 6 heures, les cambriolages, les vols avec violence, vol à la tire, l'accidentologie ont diminué, mais sans distinction zone éclairée, zone éteinte. À Orléans, qui a rallumé aussi les lumières en novembre dernier, pareil, pas de constatation d'augmentation de la délinquance, mais plutôt des incivilités comme des personnes qui urinent n'importe où. Mais à Cérémange-Erzange en Moselle, une série de vols de route voiture s'est arrêtée quand la lumière est revenue la nuit. Quelques exemples localisés donc, mais pour avoir une vision globale en termes de sécurité réelle, difficile d'y voir clair.
Il faut donc la faire, cette étude, c'est ce que je comprends. Merci.
Absolument.
Delphine Evenou. Son nom résume à lui seul une époque, les années 80 et 90, quand l'argent est devenu le maître étalon de la réussite, y compris en littérature. L'homme d'affaires devenu écrivain, Paul Lou Sulitzer, est donc mort aujourd'hui à l'âge de 78 ans. Il avait enchaîné les succès en librairie au début des années 80, 40 millions d'exemplaires vendus, des livres dont il dut reconnaître plus tard qu'il n'était pas l'auteur exclusif, entre autres Déboires. Paul Lou Sulitzer ici en 2013, après sa splendeur.
J'ai eu 40 ans de bonheur absolu, de richesse, de rencontres, et j'ai eu un mariage malheureux, et j'ai eu en même temps une affaire Langolaguette avec le juge Croix, mais c'est la vie. Shakespeare avant nous a tout raconté. J'ai moins d'argent qu'avant, beaucoup moins. Mais c'est pas grave, il me reste la tête, les mains, un certain talent.
Entretien accordé à nos confrères de TV5 Monde, Ilana Mor-Youssef, Paul Lou Sulitzer. C'était la chute après la gloire.
Drôle de destinée que celle de Paul Lou Sulitzer. Il débute dans la vie en vendant des gadgets, ceux de Pif Gadget notamment. Puis un jour, il a l'idée de ce qu'il appellera un western financier. On est en 1980, c'est le début de sa carrière d'écrivain. De metteur en livre, plus précisément, car il n'écrivait pas véritablement ses romans. Mais qu'importe, le succès est au rendez-vous. Monnaie, cash, fortune, le roi vert, les titres sont éloquents. Paul Lou Sulitzer posant Paris Match, cigare à la main. Un peu plus tard, il lance un magazine, Savoir s'enrichir. L'escroc du siècle, en 2009, est consacré à l'affaire Madoff et à la crise financière mondiale. Lui-même n'a pas échappé aux affaires. Il a été condamné à 2 reprises, une fois dans l'Angola Gate, les ventes d'armes à destination de l'Angola, et une autre fois pour fraude fiscale. En 2010, 30 ans après Monet, il publie Monet 2, un échec commercial total. Depuis quelque temps, il vivait à l'île Maurice. Davantage que comme un écrivain, il restera comme le symptôme d'une époque tout entière tournée vers l'argent.
On est Claudia Schiffer.
Et les mots d'Alain Souchon après ce parcours retracé par Ilana Mor-Youssef, foule sentimentale évidemment, 1993.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
Cette fois, c'est fait. Le budget 2025 est définitivement adopté après le vote des sénateurs ce matin. Les députés, eux, se penchent aujourd'hui sur les propositions du parti Les Républicains. C'est ce qu'on appelle la journée de niche parlementaire. LR, qui veut durcir les restrictions au droit du sol à Mayotte. Pour qu'un enfant naisse français, il faudrait, selon ce texte, qu'au jour de sa naissance, ses deux parents aient été présents de manière régulière en France depuis au moins un an. Bonjour Julien Nenni.
Bonjour.
Vous avez suivi ces débats à l'Assemblée nationale. La droite est soutenue par le gouvernement et par le Rassemblement national.
Oui, c'est donc une assez large majorité qui se dégage sur ce texte, qui devrait être ainsi adopté sans problème dans la journée, malgré l'obstruction de la gauche qui a déposé près de 300 amendements pour en retarder le vote. Parmi eux, les députés insoumis qui qualifient ce texte de honte. Alors le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a ressorti une archive.
Je voudrais vous citer un grand auteur de janvier 2018 devant cette Assemblée nationale. Je cite, mesdames, messieurs les députés, cette question à Mayotte de l'immigration est une situation ingérable. L'île ne peut plus accepter ce flux migratoire. Tout est saturé, tout est débordé. Jean-Luc Mélenchon, janvier 2018.
Dans un hémicycle aux trois quarts pleins ce matin et sous les yeux de Marine Le Pen, on assiste au retour du bon vieux clivage gauche-droite sur cette si politique question migratoire à Mayotte. L'ancien macroniste Sacha Houlier, classé à gauche, dénonce une dérive.
Mesdames, Messieurs les Républicains, je ne peux que vous avertir du service que vous êtes en train de rendre au Rassemblement National en banalisant ces propositions. Ils en seront les seuls bénéficiaires. Mes chers collègues du Bloc central, vous n'êtes pas condamnés à être les complices de l'union des droites qui se fait à vos dépens moraux et électoraux.
Et de fait, ce texte sur Mayotte en embarrasse aussi plus d'un dans le camp présidentiel. Il y a quelques années, on aurait tous voté contre, mais on ne peut pas se permettre de braquer la droite, confie fataliste un député Renaissance.
Julien Nenni à l'Assemblée nationale pour Inter. Je reviens au budget un instant. Parmi les mesures adoptées, il y a l'élargissement de la niche Coluche. Cette disposition, obtenue par le fondateur des Restos du Cœur, permet de déduire 66% du montant du don à une association, déduction de son impôt sur le revenu, réduction qui monte à 60%. 75% si le don est versé à des associations d'aide aux personnes en difficulté. Ce sera aussi 75% désormais pour les associations de lutte contre les violences domestiques et à l'égard des femmes. Françoise Brié, présidente de l'association Women Without Violence, salue ce vote.
C'est très positif pour toutes les associations, d'autant qu'on sait que les budgets, en particulier sur certains projets, sont en baisse, même si on a noté qu'il y avait une augmentation du budget au niveau du ministère de l'égalité femmes-hommes. Mais en tous les cas, c'est positif pour les associations d'avoir une diversification des fonds publics-privés et donc de pouvoir bénéficier en tous les cas de ces dons. Ce qui incite finalement les donateurs et les donatrices privées à donner du financement pour toutes les actions qui sont menées en faveur des femmes et des enfants d'ailleurs victimes de violences. Cette défiscalisation, elle est évidemment essentielle pour en tous les cas ne pas faire de concurrence non plus hein, entre les associations qui sont toutes très utiles et qui doivent de toute façon avoir le même statut en tous les cas au regard de cet amendement.
Françoise Brié au téléphone de Louise Adélaïde Moinard. C'est une disposition qui figure dans les budgets qui viennent d'être votés, les fauteuils roulants intégralement remboursés à partir du 1er décembre 2025. On connaissait la mesure remboursement intégral, mais on n'avait pas la date. C'est Emmanuel Macron qui la donne à l'instant, remboursement intégral à partir du 1er décembre. C'était une promesse faite il y a 2 années. Ce qui nous amène au financement de la santé et à l'argent que vous versez chaque mois à votre mutuelle, si vous en avez une. Le 1er janvier, les cotisations de ces mutuelles ont augmenté de 6% pour l'année 2025. C'était plus 8% l'an dernier. Argument avancé à l'époque, le budget de la Sécu 2025 augmente la part des mutuelles dans le remboursement des médicaments et des consultations. Sauf que depuis, cette disposition a été supprimée et les mutuelles vont économiser 1 milliard. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
Alors vont-elles garder cet argent ? Ou bien les clients peuvent-ils espérer le récupérer ?
Alors techniquement, les mutuelles ne peuvent pas vous rendre de l'argent, mais elles peuvent décider de ne pas encaisser les derniers mois de cotisation. C'est d'ailleurs ce qu'elles avaient expliqué en fin d'année dernière lors de l'annonce de l'augmentation des tarifs pour 2025. Sauf que ce milliard attire aujourd'hui les convoitises. D'un côté, ces complémentaires qui disent en avoir vraiment besoin pour faire face à la hausse sensible des dépenses de santé. De l'autre, l'État qui estime que les mutuelles doivent contribuer au financement supplémentaire des dépenses de santé via via une taxe dont les modalités restent à définir. Taxe d'autant plus nécessaire que parallèlement, François Bayrou, pour répondre aux demandes des élus socialistes, s'est engagé à augmenter les moyens des hôpitaux publics à hauteur d'1 milliard d'euros. Résultat, un vrai bras de fer et un communiqué commun de la Mutualité française, de France Assureur et du Centre technique des institutions de prévoyance pour rappeler que le rôle des complémentaires santé n'est pas de collecter l'impôt pour le compte de l'État.
Merci Agnès Soubiran. La crise de l'immobilier en chiffres, le volume des nouveaux crédits immobiliers accordés chaque année est tombé à son plus bas niveau l'an dernier, plus bas niveau depuis 2014, nous dit aujourd'hui la Banque de France, même s'il y a eu un léger redressement durant la deuxième partie de l'année. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, lui a donné plus de chiffres concernant le narcotrafic et le bilan 2024. 110 morts et 341 blessés l'an dernier dans des violences liées au narcotrafic, les saisies de cocaïne en forte hausse, plus 130%, celles de cannabis en baisse. Le crime organisé, c'est un sujet majeur en Corse et c'est un ancien préfet qui le dit. Amaury de Saint-Quentin a quitté la préfecture de Corse il y a quelques mois, il est désormais en poste à Rennes, mais il a été entendu la semaine dernière par les députés de la mission d'information sur l'avenir institutionnel de la Corse et il leur a affirmé ceci. Le crime organisé imprègne l'intégralité de la société corse jusqu'aux services de l'État. Fin de citation. Des services de l'État mis en cause par un préfet. Ces propos sont confirmés par plusieurs sources concordantes, Clémence Gourdon-Négrini.
Et ils sont rares dans la bouche d'un représentant de l'État en Corse. C'est en réponse à une question sur le degré de pénétration de la mafia que le haut fonctionnaire a déclaré. Le crime organisé imprègne l'intégralité de la société corse avant de détailler le type de structure concernées comme des entreprises ou des associations et d'ajouter à son énumération les services de l'État. Dans son propos, Amaury de Saint-Quentin a insisté sur cette dimension à prendre en compte dans le cadre des négociations sur l'autonomie en précisant qu'il ne l'avait jamais retrouvée ailleurs, y compris en Outre-mer. En conclusion, l'ex-préfet de Corse a plaidé la nécessité d'une volonté politique. Ces dénonciations interviennent 4 mois après son départ de la préfecture de Corse. Ont-elles été relayées plus officiellement par ailleurs? L'article 40 du Code de procédure pénale qui impose aux agents publics de faire un signalement dans les cas de délit ou de crimes aurait-il pu être déclenché? Contacter la préfecture d'Ille-et-Vilaine où officie désormais Amaury de Saint-Quentin indique qu'elle ne donnera pas suite à notre demande.
Information signée ici Corse, Frequenza Mora. La circulation des trains est très fortement perturbée en ce moment sur la ligne à grande vitesse entre Paris et le Sud-Est. C'est un défaut d'alimentation électrique qui est en cause, nous dit la SNCF. Les TGV Inouï et Ouigo sont actuellement retenus à la gare de Lyon à Paris. Les trains qui sont en circulation, eux, roulent à vitesse très réduite, entre 30 et 50 km/h. Après la bombe lâchée mardi par Donald Trump, je rappelle le projet, les États-Unis vont annexer Gaza, chasser les Palestiniens et reconstruire façon Riviera et paradis pour touristes. Eh bien, Washington a légèrement nuancé ce matin ce propos. Le président veut reconstruire les bâtiments afin que les gens puissent y retourner, a précisé le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Mais Trump, à l'instant, sur son propre réseau social, redit que ce territoire pourrait devenir américain à l'issue de la guerre. Qu'importe, l'hypothèse d'un départ des Palestiniens de Gaza trouve un écho en Israël. Le gouvernement israélien explique aujourd'hui avoir lancé des préparatifs en vue d'un départ volontaire des habitants. Sébastien Logeni, on vous retrouve. Annonce ce matin faite par le ministre israélien de la Défense, Israël Katz.
Oui, on parle d'un plan qui permettrait à tout habitant de Gaza qu'il souhaite de partir vers n'importe quel endroit du monde qui accepte de l'accueillir. Un plan de départ par voie terrestre, maritime ou aérienne. Le ministre de la Défense israélien va jusqu'à donner quelques exemples de destinations possibles. Espagne, Irlande, historiquement des pays proches des Palestiniens, mais aussi la Norvège ou le Canada qui a déjà des programmes d'immigration avec les habitants de Gaza. Le ministre n'est pas le seul toutefois à exprimer cette possibilité. Benjamin Netanyahou l'a dit lui-même hier soir dans une interview à Fox News.
L'idée en fait c'est d'autoriser les Gazaouis qui veulent partir à partir. Quel est le problème avec ça? Ils peuvent partir, puis ils peuvent revenir, ils peuvent s'installer ailleurs et revenir. C'est une idée remarquable.
Alors précisons que la possibilité de quitter le territoire de Gaza pour les Palestiniens existait déjà avant la guerre, mais ces demandes de sortie étaient totalement contrôlées, vérifiées par les autorités israéliennes, acceptées au compte-gouttes. Là on peut imaginer qu'il s'agirait d'ouvrir davantage les frontières, mais sans un retour garanti. En effet, L'idée émane d'un fidèle de Benjamin Netanyahou, Israël Katz, est l'un des durs du gouvernement, opposant de longue date à un État palestinien, déclarant après les massacres du 7 octobre que les Gazaouis, je cite, n'auraient plus une seule goutte d'eau jusqu'à ce qu'ils quittent le territoire.
Sébastien Legénie, nous parlions il y a un instant de la nouvelle administration Trump aux États-Unis. Trump qui a proposé aux fonctionnaires fédéraux américains qui le souhaitent de démissionner. Le délai fixé arrive à son terme aujourd'hui. Et pendant ce temps, Elon Musk et son équipe s'immiscent dans les systèmes informatiques de l'administration américaine, jusqu'à prendre le contrôle de certains leviers très sensibles comme le système de paiement du Trésor. Et parmi les fonctionnaires visés également, il y a les chercheurs. Bonjour Sandy Dauphin.
Bonjour.
C'est la panique en ce moment chez les scientifiques américains.
Oui, pour vous donner un exemple, le Centre de prévention et de lutte contre les maladies, le CDC, un organisme américain de santé publique, et bien sur son site internet, des données épidémiologiques, des recommandations de santé disparaissent. Plus de 1000 pages se sont envolées vendredi dernier, d'après l'Association américaine des journalistes qui traite des questions de santé. Alors depuis, certaines pages sont réapparues, mais de manière chaotique. Et l'association raconte comment des chercheurs en ce moment se mobilisent pour mettre en sécurité des archives. Cette purge de données scientifiques, c'est un exemple parmi d'autres qui fait réagir l'Association française pour la liberté académique. Elle lance une lettre de solidarité avec les universitaires américains, son vice-président, le physicien Bruno Andreotti.
Les États-Unis ont d'énormes bases de données qui servent à la planète entière et qui sont soudainement mises sous contrôle d'une poignée de jeunes ingénieurs sous le contrôle de Musk. Cette toute petite équipe qui fait des incursions, des razzias pour faire ce coup d'État administratif et sidérer nos collègues au nom de qui on parle finalement, nous qui avons cette possibilité.
Les agences publiques américaines qui produisent ou s'appuient sur la science sont toutes dans le viseur d'Elon Musk et de Donald Trump, l'administration des aliments et des médicaments, la FDA, l'agence de protection de l'environnement ou encore la NOAA, l'agence américaine d'observation océanique et atmosphérique. Certains collègues américains n'osent même plus utiliser leur mail professionnel pour communiquer avec nous, me confiait une climatologue française, de peur des intimidations et des représailles.
Merci Sandy Dauphin. Les soldats américains y ont longtemps été engagés. L'Irak, le pays, se reconstruit peu à peu après les combats menés contre les djihadistes du groupe État islamique qui avait notamment ravagé la grande ville de Mossoul au nord. On se souvient que c'est dans la mosquée Al-Nouri de cette ville que l'ex-chef du groupe État islamique Abou Bakr al-Baghdadi avait proclamé, c'était en juillet 2014, son califat, avec ensuite les conséquences que l'on sait, y compris avec des attentats commis ici même en France. Bonjour Étienne Monin.
Bonjour.
Eh bien cette mosquée, avec son emblématique minaret, a été reconstruite et restaurée.
Après avoir été quasiment rayée de la carte, puisque avec le couronnement de Baghdadi, l'autre image choc de cette mosquée, c'est celle prise le premier jour de l'été 2017 par un drone en noir et blanc après le dynamitage du site. Il ne restait alors presque plus rien. Le minaret avait été pulvérisé. Dans sa déroute, l'État islamique est soupçonné d'avoir voulu supprimer ce pan d'histoire après l'avoir associé à sa conquête. Le minaret Al-Abda est pourtant un joyau d'architecture dans cette mosquée. Il date du 12e siècle. Il est imprimé sur les billets de 10 000 dinars irakiens. Sa construction a été décidée par une figure de la résistance aux croisades. Et il est unique parce qu'il est penché avec une inclinaison qui atteint 1,60 m. L'UNESCO lance alors le projet de reconstruction. Elle en fait un symbole de l'identité irakienne et de la réconciliation. L'Europe et les Émirats arabes unis dégagent un budget de 111 millions d'euros. 45 000 briques originelles sont utilisé pour cette reconstruction. Aujourd'hui, le minaret est terminé. Il a été reconstruit à l'identique. Il reste encore quelques travaux dans la mosquée et dans Mossoul. L'UNESCO a aussi restauré des églises et des maisons historiques.
Merci Étienne Monin. La France les avait promis. Ils sont désormais livrés à un premier lot de Mirage 2000 avec aux commandes des pilotes ukrainiens formés en France. Ces appareils sont arrivés en Ukraine, annonce aujourd'hui le ministre français des Armées Sébastien Lecornu. Ces avions sont opérationnels. Devenir la figure de proue de l'intelligence artificielle en Europe. L'ambition est grande pour la France avant le sommet sur l'intelligence artificielle qui vient de s'ouvrir. On verra ce qu'il en ressort à l'issue. Les chefs d'État qui y participent seront là lundi. Mais à la faveur de ce sommet, plusieurs initiatives pour nous faire prendre conscience de la place que l'intelligence artificielle occupe désormais dans nos vies. Et parmi ces initiatives, cette expérience que nous proposent nos cousins de France Culture. Ce sera demain entre 13h30 20 et 14 heures. Tout sera faux dans l'émission Les Pieds sur Terre, l'histoire d'un homme et d'une femme bloqués dans un téléphérique complètement inventé par une intelligence artificielle. Il y a entraîné à Radio France à partir de plusieurs centaines d'émissions passées. Stéphane Jourdain, on a besoin de vous pour comprendre cette expérimentation. À quoi ça va ressembler? Sont des faux témoignages?
Alors, tout est faux dans cette émission, à commencer par le lancement de la journaliste.
C'était il y a tout juste un an, le 8 septembre 2023. Une panne du téléphérique de la Bastille à Grenoble laissait 60 personnes suspendues dans les airs pendant près de 3 heures.
Le texte a été rédigé par une IA et la voix clonée par un logiciel. Plus impressionnant, les sons d'ambiance et les témoignages aussi sont faux.
Je ne me doutais pas que ma vie allait basculer. Quand j'ai entendu un bruit bizarre, j'ai vu le câble qui pendait. En tant qu'agent de sécurité, je savais ce que ça voulait dire, mais je devais garder mon calme pour ne pas paniquer.
Vous noterez qu'il y a même des hésitations,
ouais, les hésitations, ouais.
Très bien faites. Et globalement, c'est quand même plutôt bien fait. On a une pensée, Jérôme, pour ceux qui vont prendre l'émission en cours et la quitter avant la fin.
Est-ce que ça ne va pas, Stéphane, tout de même encore favoriser la défiance vis-à-vis de l'information?
Oui, instiller le doute, c'est une stratégie complètement assumée par la productrice de l'émission, Sonia Krunland.
Eh ben c'est peut-être pas mal si les gens se demandent à chaque fois s'ils écoutent quelque chose de vrai ou pas. Et qu'on les rassure en leur disant « Non, ce qu'on vous fait écouter, c'est vrai ».
L'expérience qui souligne certains travers un peu clichés de l'émission va d'ailleurs avoir un effet sur le réel.
Le modèle imite extrêmement bien ce qu'on fait, mais de manière légèrement caricaturale, un peu outrée, avec certains de nos défauts. Les histoires, par exemple, sont un peu mélodramatiques. C'est un peu une sorte de miroir déformant. Du coup, moi, quand je me réécoute, je fais attention de changer mes manières de parler. Enfin, voilà, j'ai des petits tics de langage qui me sont apparus.
Et vous, Jérôme, prouvez-nous que vous êtes bien vrai.
Alors, comment faire? Là, maintenant, je ne peux pas faire autre chose que parler. Mais par exemple, lundi, j'ai perdu ma voix en plein direct. Ouais. Je ne suis pas sûr que l'intelligence artificielle accepte ça.
Non, c'est, une c'est IA pas très agréable.
Merci Stéphane Jourdain pour ces explications. Ce sera le vrai Mathieu Jalibert samedi sur la pelouse de Twickenham avec le 15 de France de rugby face à l'Angleterre pour le crunch. Deuxième journée du tournoi des Six Nations. Le sélectionneur Fabien Galthié a donné sa composition ce matin. Donc Jalibert à l'ouverture, car Romain Tamac, lui, a suspendu et suspendu après son carton rouge reçu face au Pays de Galles. C'est Damien Penaud qui prendra place à l'aile. Il y a eu tout un débat autour de la titularisation de Mathieu Jalibert samedi. Ce débat, au fond, a-t-il un sens avec un numéro 9 du talent, de la qualité d'Antoine Dupont? Le nom du demi d'ouverture du 15 de France a-t-il la moindre importance? Écoutez la réponse de notre consultant, Guy Acoceberi.
Antoine Dupont est le joueur qui anime, qui fait les décisions, qui prend l'initiative. Et Mathieu Jalibert, lui, en position de 10, a le même rôle à Bordeaux, à l'Union Bordeaux-Bègles. Donc, associer deux joueurs qui ont le même profil, c'est toujours plus compliqué parce qu'il faut qu'il y ait des concessions d'un côté et de l'autre. Il faut trouver un équilibre dans leurs jeux respectifs. Ça veut dire que Mathieu Jalibert va être plus, je dirais, dans l'obligation d'être un peu plus sobre dans ce qu'il fait, laisser peut-être plus de responsabilité à Antoine que lui en prendre. Mais ne pas hésiter quand même à en prendre quelques-unes. Il ne faut pas avoir que le plan Antoine Dupont, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une blessure d'Antoine. Donc il ne faut pas être Dupont dépendant, comme on dit. Il faut avoir la capacité à développer d'autres systèmes de jeu si Antoine est absent.
Guy Acoceberi, notre consultant rugby, Angleterre-France de rugby. Samedi après-midi, 17h45, il répondait à Clara Lecoq-Réal. 13h27 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo d'Élodie Calac. Puis à 13h30, l'enseigne Chine. Dans le collimateur de l'Europe, elle vend des vêtements à bas prix, plébiscités par les consommateurs, mais beaucoup de produits sont non conformes et trop nombreux en tous les cas pour être contrôlés, nous dit l'Union Européenne qui réplique. On en parle avec nos invités et avec vous. 01 45 24 7000. 13h45, notre feuilleton avec une préfète qui détonne. C'est Marilyn Poulain, ancienne cadre de la CGT. Nous la retrouvons dans un quart d'heure. À 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Marilus Ribaud du journal Sud-Ouest et Frédéric Pommier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Marilus, l'Amérique est-elle un Eldorado pour nos agriculteurs?
Eh bien, évidemment que si nous allons, aujourd'hui oui, et si nous allons, nous avons des droits de douane qui augmentent, eh bien cela ne se passera plus tout à fait pareil. Et c'est même tout notre art de vivre qui peinerait à passer la frontière. Un grand chef va nous l'expliquer.
Et vous serez avec nous dans quelques minutes. Avec vous, Frédéric, un musicien aujourd'hui.
Oui, les compositeurs et contrebassistes Renaud Garcia Fonce, une figure de la scène jazz. Et avec lui, c'est de la musique flamenco que nous écouterons, un morceau du chanteur Camarón de la Isla, que Marie-Luce a d'ailleurs eu la joie, le privilège, l'immense honneur de voir sur scène.
Ah oui.
C'est une légende du flamenco, oui, oui. Camarón.
Absolument, et on va l'écouter grâce à vous. À tout à l'heure.
L'Agirc-Arrco est à vous.
Et c'est pour ça que je suis rassuré. À 2 ans de la retraite, j'ai créé mon espace personnel sur le site de l'Agirc-Arrco. Et quand j'ai des questions, je vais voir mon conseiller près de chez moi. En plus, il me propose des services pour mieux préparer ma vie à la retraite. Voilà.
Parce que la retraite complémentaire, c'est le patrimoine de tous les salariés du privé. Vous serez toujours chez vous dans les 600 lieux d'accueil et de conseil de l'Agirc-Arrco. Et en plus, c'est gratuit. Agirc-Arrco, la retraite a de l'avenir. Rendez-vous sur agircarco.fr.
Livre Inter 2025. Vous avez envie de faire partie du jury du Livre Inter, présidé par Marie-Hélène Lafon.
J'espère que c'est lumineux, j'espère que c'est joyeux. C'est ça que j'attends, mettre le plaisir de la lecture, du texte, au centre.
Écrivez-nous, parlez-nous de vous, de vos lectures, sur franceinter.fr ou par courrier France Inter, Livre Inter, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220, Paris CEDEC 16. Vous avez jusqu'au 3 mars inclus.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
Un temps calme et gris au nord.
Oui, sur la moitié nord jusqu'au nord de l'Aquitaine et au nord de l'Auvergne-Rhône-Alpes. En effet, c'est du gris avec un vent de nord-est sensible et désagréable. On a des éclaircies qui reviennent tout de même de la Bretagne au Cotentin. En descendant vers le sud, du sud de l'Aquitaine, vers les Alpes, la Méditerranée, c'est du soleil. Quelques grisailles résistantes tout de même vers la Garonne, très ponctuellement. Les températures baissent à l'ouest. Elles sont froides, sauf en Méditerranée. Comptez 3 à 8 degrés sur une bonne partie du pays, jusqu'à 10 en Bretagne, 9 à 12 sur le sud-ouest et 13 à 16 en Méditerranée. Demain, le temps va devenir perturbé avec des pluies à l'ouest et au nord, quelques flocons possibles du nord-ouest au nord de la Seine et des pluies aussi du Languedoc vers la Provence, le sud du Massif central, plus conséquentes d'ailleurs sur les Cévennes où il neigera vers 1200 mètres.
Merci Elodie Calac, Météo France.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
9 euros la robe, 5,50 € les 10 paires de chaussettes, 4,50 € les écouteurs sans fil. Tout cela livré gratuitement à partir de 40 € d'achat. Voilà un échantillon de ce que vous propose la plateforme de vente en ligne Shein, fondée en Chine, mais désormais basée à Singapour. Des produits fabriqués bientôt en Turquie, mais pour l'instant au Brésil, en Chine, à bas prix et en grand nombre, qui inonde le marché français. C'est l'enseigne de mode où les Français ont le plus dépensé l'an dernier, si l'on en croit une étude de l'application de shopping Joco. Ce qui pose un problème à l'Union européenne, puisque la Commission dit avoir constaté que nombre de ces produits étaient non conformes à sa législation, voire dangereux. Hier, l'Union européenne a donc ouvert une enquête. La Commission, elle, veut aussi une taxe sur ces milliards de colis qui arrivent chez nous chaque année, qu'il faut contrôler. Ça coûte aujourd'hui très cher et les douanes sont débordées. Réponse de Chine, on est en train d'inventer une TVA sur les produits les plus pauvres. Réponse dans la bouche il y a quelques jours de Christophe Castaner, l'ancien ministre qui est devenu conseiller de la marque. 01 45 24 7000 pour vos questions ou témoignages de consommateurs. Vous passez aussi via l'application France Inter. Je vous présente nos invités. Anne-Cécile Violent, bonjour.
Oui, bonjour.
Députée Horizon, c'est le parti d'Édouard Philippe, je le rappelle, députée de Haute-Savoie. Vous défendez une loi contre ou pour réguler, vous nous direz exactement, ce qu'on appelle la fast fashion, la mode jetable. Avec nous également, Yann Rivoilan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de la Fédération française du prêt-à-porter féminin. Et puis nous écouterons dans un instant Quentin Ruffa, qui est le porte-parole en France du groupe Chine. Je voudrais d'abord qu'on donne la parole à Michel. Bonjour Michel. Bonjour Michel, est-ce que vous m'entendez?
Attendez, c'est pas Michel, c'est Mireille.
Mireille.
Bon, voilà. Excusez-moi. Bon, alors, écoutez, je pose la question. Alors.
Allez-y, Mireille, je vous écoute.
Bon, alors, je voulais savoir si vous trouvez normal qu'un ancien ministre donne son carnet d'adresse à cette entreprise, Shein, qui est le summum de l'aberration, de la pollution et tout ça, C'est aberrant qu'on puisse s'engager avec une telle entreprise.
Ça vous a choqué en tous les cas, Mireille, c'est ce que je comprends, vous nous appelez de Nîmes. Merci pour votre question. Anne-Cécile Violent, avant de revenir sur le fond, la présence de Christophe Castaner aux côtés de cette marque chinoise.
Bah écoutez, évidemment, hein, c'est surprenant. Moi, j'ai pris acte de cette collaboration. Pour autant, voilà, chacun réagit avec ses valeurs. Moi, ça ne sont pas mes valeurs. Il est certain que je n'aurais jamais signé avec Chine. Lui défend l'idée de vouloir faire de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Ce que je peux lui dire, c'est que c'est le modèle économique dans sa globalité qu'il faut revoir et certainement pas travailler uniquement sur la RSE, quoi.
L'argument qu'a développé Christophe Castaner, je l'ai cité, c'est de dire vous mettez une taxe, mais c'est une taxe anti-pauvre en fait, parce que les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent vont sur Chine. Qu'est-ce que vous répondez à ça, vous qui avez déposé une proposition de loi pour réguler ou pour combattre ce modèle économique ?
Bah, d'une part, je vais lui dire qu'il regarde la loi plus attentivement parce qu'il a pu dire sur un autre média qu'il l'avait finalement pas tellement regardé, qu'il la connaissait pas. Et pour un ancien ministre, ne pas faire la différence entre une TVA et une pénalité, c'est quand même pas tout à fait la même chose. La loi, elle dit quoi ? Elle dit qu'effectivement, tous les produits qui ont un impact environnemental extrêmement défavorable à l'environnement va tout simplement être pénalisé. C'est une pénalité, donc c'est pas une taxe, hein, c'est pas quelque chose qui est récolté par l'État, c'est une pénalité qui va ensuite à l'organisme ReFashion qui s'occupe justement de traiter toutes les filières de recyclage, de réemploi et de traitement des déchets et qui va donc être réinjectée non seulement dans cet organisme mais aussi qui va favoriser des bonus pour les produits vertueux et notamment le Made in France et le Made in Europe. Donc c'est une méconnaissance totale, il ne s'agit pas d'une TVA sur les produits les plus populaires, il s'agit d'une pénalité sur des produits extrêmement impactants pour l'environnement et c'est bien le sujet de cette industrie textile.
Yann Rivoallan, qu'est-ce qui vous pose problème dans ce modèle ? Est-ce que c'est le fait que les vêtements soient fabriqués au Brésil ou en Chine ? Après tout, quelle marque aujourd'hui, même française, ne fabrique pas à l'étranger ? Le Made in France pour des robes, des pantalons ou des chaussures, c'est extrêmement rare.
Alors ce qui me gêne, c'est tout simplement que c'est Chine ne paye pas de taxes. Je comprends l'étonnement de notre ancien ministre en parlant de cette taxe, parce que ça serait bien la première fois que Chine en paye. Rappelons-nous, normalement, il y a une taxe sur les produits importés. Une taxe sur les produits importés, c'est à partir de 150 euros. C'est impossible de faire un panier au-dessus de 150 euros. Donc, résultat, Chine ne paye jamais cette taxe. Le deuxième point, c'est que on devrait
mais utilise
aussi
la loi à son avantage, en fait.
Ah bah, c'est un abus complet de tout ce qui peut se faire sur toute la chaîne de valeur. C'est des produits qui sont honteux parce que 80% en plastique. C'est un centime par produit fabriqué. Tous les produits que vous avez donnés tout à l'heure, chaque fois, c'est un ouvrier qui touche un centime. C'est des taxes qui ne sont pas payées, mais il y a aussi la TVA. On va reprendre la TVA. Normalement, quand on reçoit un produit Chine, on devrait payer la TVA. On ne la paye pas. Donc c'est sur toute la chaîne de valeur des fraudes ou de la destruction de la planète ou de l'exploitation de salariés. Donc que M. Castaner se permette de dire c'est une taxe en plus, non seulement c'est un mensonge, c'est une incompréhension et surtout ça démontre la logique de Chine qui est de frauder à tous les niveaux.
On a retrouvé Michel. Bonjour Michel.
Oui, bonjour.
Vous nous appelez de Montpellier, nous vous écoutons.
Je vous appelle de Montpellier. J'ai tenu une boutique pendant 24 ans dans le prêt-à-porter féminin. Cette boutique, elle a fermé samedi 1er février 2025. Je vendais des produits qui étaient loin d'être en concurrence avec les chaînes et tenues, hein, aucun problème. Par contre, en effet, ce qui me choque profondément, c'est que Chine ne paye aucune TVA, que ce soit en France ou en Europe. Alors moi, j'ai une solution, elle est toute bête, toute simple. Eh bien, ces gens-là, ils devraient tout livrer sur un point en France, un point en Allemagne, etc. Et puis là, ben, on connaît le montant de leurs ventes, qui sont en effet des prix dérisoires, et là, on taxe et on prend au moins les 20% de TVA que l'État français doit, dans tous les cas, récupérer.
Mais vous n'expliquez pas la fermeture de votre commerce, Michel, par cette concurrence ?
Sur mes produits, non, ouais, c'est beaucoup plus général. Ma boutique, c'est la crise du textile en général, c'est le changement de mode, ça a été le Covid, et puis les secondes mains aujourd'hui, enfin c'est un autre mode de consommation. Donc je ne suis pas en concurrence avec ces gens-là, je n'étais pas en concurrence avec
Merci
eux.
Merci Michel pour ce témoignage. On a énormément de témoignages. Yann Rivoallan, je voudrais vous livrer celui de Yves, département de la Somme. Il nous dit « J'achète depuis 10 ans sur Chine, je trouve tout ce que je cherche, je fais 4 à 5 achats par semaine.
C'est très triste.
Il y a des centaines de milliers de Français dans son cas.
Il y a 3 millions de Français qui tous les jours vont sur Chine. Mais je les comprends. Je comprends dans des moments d'inflation, je comprends dans des problématiques de pouvoir d'achat, qu'on ait envie d'acheter des produits qui ne sont pas chers. Et quand on ne sait pas ce qu'il y a derrière, quand on ne sait pas les personnes qui sont exploitées, quand on ne sait pas que les produits sont aussi en grande partie toxiques, on ne comprend pas justement la dangerosité. C'est pour ça qu'il faut mettre Chine et tous les produits qui sont vendus au même niveau que les cigarettes ou encore l'alcool. C'est des produits qui devraient être interdits parce que tout ce que fait Chine, y compris sur son site, c'est de lâcher des choses addictives. C'est des choses qui nous incitent à
consommer. Mais je ne mets pas ma santé en danger autant quand je mets un t-shirt que quand je fume une cigarette, Yann Rivoilan, pour reprendre votre comparaison.
Mais si, détrompez-vous. En fait, il y a deux points. Il y a un point qui est immédiat, c'est les produits qui sont dangereux. On a vu en Corée des produits justement qui étaient dangereux et qu'on compris qui était cancérigène. Le deuxième, c'est qu'un produit en polyester, il ne se détruit pas. Donc à la fin, il finit sur les plages du Ghana, il finit dans nos océans et donc il finit dans nos corps. Donc aussi, c'est dangereux pour notre santé.
Sur ce point, je voudrais qu'on donne la parole précisément au groupe Chine. Quentin Ruffa, le porte-parole du groupe, n'a pas souhaité être avec nous sur ce plateau, mais il a répondu à mes questions ce matin. Première interview radio aujourd'hui, ici même. Il estime que le concept et le succès de Chine, c'est d'abord des vêtements à la demande.
On nous compare à tort à de la fast fashion ou même de l'ultra fast fashion. Or, si on prend la définition de la fast fashion, c'est produire en masse, avec du stock et beaucoup d'invendus. Or, Chine est à l'opposé de ce modèle. Chine, c'est de la mode à la demande. C'est que chacune des nouvelles références que nous proposons sur notre site est produite entre 100 et 200 exemplaires. En fonction de la demande, nous sommes en mesure d'activer nos outils de production, notre chaîne de production, pour répondre pratiquement à l'article près à ce qui est demandé par nos consommateurs. À la fin de l'année, en 2024, notre taux d'invendu est entre 0 et 5%. Une référence qui est produite sur notre site est produite entre 100 et 200 exemplaires et sera produite si et seulement si il y a de la demande derrière.
Et le nombre de références ?
Ça change tous les jours.
Et par an, par exemple ?
Ça change tous les jours.
Bon, vous ne voulez pas me le dire. L'empreinte carbone de Chine, là-dessus, vous avez communiqué 16,7 millions de tonnes de dioxyde de carbone, c'était en 2023. Vous êtes engagé à faire des efforts d'ici 2030. Où est-ce que vous en êtes pour baisser cette empreinte carbone ?
C'est un vrai sujet. Je pense que l'empreinte écologique, l'engagement écologique doit être au cœur de l'ensemble des missions des entreprises. Dans ce sens, j'applaudis la proposition de loi de Mme Violant, qui à tort est appelée proposition de loi anti-fast fashion, mais le vrai titre de cette proposition de loi, c'est la proposition de loi pour limiter l'empreinte écologique de l'industrie textile dans son ensemble. Aujourd'hui, qu'est-ce que fait Chine pour aller dans ce sens ? Nous sommes en train d'ouvrir une chaîne de production en Turquie pour adresser l'ensemble du marché européen à travers du fret routier.
Aujourd'hui, il vient d'où ?
Aujourd'hui, ça vient de Chine, ça vient pour l'Europe.
Oui.
Avec des entrepôts de stockage en Pologne et en Italie.
Donc on produit plus près, en Turquie, et on n'amène pas par bateau, on amène par camion.
On l'adresse par fret routier.
Ouais.
Ce sera le cas pour 100% du marché européen.
Quentin Ruffa, porte-parole de Chine France, qui nous annonce aussi que les matériaux utilisés dans les prochaines années pour fabriquer ces textiles seront désormais recyclables. Anne-Cécile Violant, vous qui êtes députée Horizon de Haute-Savoie et qui défendait, qui portait cette loi contre la fast fashion, vous vouliez, je crois, réagir.
Oui, absolument, parce que j'ai vraiment failli m'étouffer en écoutant M. Ruffa. Alors, d'une part, simplement quand même expliquer qu'on n'a jamais pu faire un véritable débat avec les représentants de Chine pendant la loi, parce qu'ils ont refusé, justement, comme là, ce jour, d'être en direct face à des contradicteurs. Quand il dit qu'il est heureux de cette loi, mais j'en suis ravie, maintenant, il faut vraiment être honnête. C'est-à-dire que là aussi, on a du mensonge. Quand ils disent qu'ils ne sont pas impactants pour l'environnement, évidemment que oui. Et si on reprend juste leur modèle économique qui est basé effectivement sur une production à la demande, le fait est que la demande est tellement énorme qu'il y a une véritable production de déchets qui est énorme, énorme, et qui va effectivement, comme le disait Yann tout à l'heure, finir par se retrouver sur les plages du Ghana. Comme on est sur des matières synthétiques, on va avoir une dissémination de produits, de microparticules de plastique. C'est 24 milliards de bouteilles de plastique par an qu'on retrouve sur toute la planète. Autrement dit, c'est une carte bleue qu'on mange chacun par année à cause de cette dissémination de plastique. Donc évidemment que l'impact environnemental, il est énorme. Et puis moi, je demande à voir là leur bonne résolution de nouvel acheminement. Uh-huh. Aujourd'hui, l'industrie textile, à travers justement ces deux grosses enseignes, c'est vraiment le transfert aérien qui est évidemment beaucoup plus polluant. Et si on prend l'ensemble de l'impact environnemental, c'est plus polluant en matière de gaz à effet de serre, c'est plus de 10%. C'est-à-dire c'est-à-dire plus que les voyages aériens et maritimes confondus. Bien sûr que c'est polluant.
Yann Rivoilan, on voit ces vidéos de consommatrices qui filment, qui diffusent sur les réseaux sociaux le moment où elles ouvrent leur carton. On sent que la bataille de l'opinion, elle est difficile pour vous. Il est là aussi le terrain, il est peut-être juridique, il est peut-être fiscal, mais il est aussi dans l'image et dans la conviction.
Il est certain qu'on peut avoir envie, quand on s'est fait plaisir avec un nouveau produit, de pouvoir le montrer à tout le monde. Quand on sait l'horreur qui peut exister derrière, forcément on peut avoir une forme de culpabilisation. Donc il est de notre métier de pouvoir informer aussi sur l'envers du décor qui est abominable. Le deuxième, c'est qu'on le voit par exemple tristement aussi avec la cigarette. On peut avoir des images horribles sur les cigarettes. On peut avoir derrière en fait, des lois qui vont contraindre en fait, sur certains âges. Ce qui marche, c'est le prix. C'est parce que le prix a augmenté qu'on a arrêté d'acheter des cigarettes. Et donc, les consommateurs qui ont envie de se faire plaisir, individuellement, n'ont pas la sensation de pouvoir polluer, de pouvoir exploiter. Et donc, ils ont raison, à titre individuel, ce n'est pas beaucoup, mais la somme de tout, c'est horrible. Je vais revenir sur le mensonge de tout à l'heure.
On n'a plus de temps, Yann Rivoilan, mais ce que vous dites revient à ce que vous nous expliquiez tout à l'heure autour de la TVA et à ce débat qu'on a eu également il y a quelques minutes avec Anne-Cécile Violent. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Merci aux très nombreux auditeurs et auditrices qui nous ont appelés. 13h45 sur Inter. Notre feuilleton, une semaine dans la vie de la préfète déléguée à l'égalité des chances dans le Bas-Rhin, Marilyn Poulain, ancienne syndicaliste de la CGT, figure de la lutte pour les droits des sans-papiers, qui a gardé dans ses nouvelles fonctions cette sensibilité aux questions d'intégration. Et nous la suivons aujourd'hui dans son bureau à la préfecture de Strasbourg. Elle reçoit des représentants de centres sociaux qui assurent des cours de français en langue étrangère.
Cette cafetière fait un bruit insupportable, je tiens à vous prévenir tous. On attend qu'elle chauffe.
Le but était de faire un peu le point ensemble sur la question du français langue étrangère. Je sais quelle l'inquiétude a été la vôtre, mais peut-être vous laissez vous exprimer tous les deux.
Pour le Centre socioculturel de la Montagne Verte, c'est vrai que ça a été un sujet d'actualité brûlante en septembre dernier, quand on a découvert que le financement du BOB 104 se réduisait de moitié pour 2024. Et si nos associations décidaient d'arrêter par manque de moyens, on se dit qu'on perd tout un pan de l'accès à la sociabilité de ces personnes-là.
En tout cas, nous, on fera au maximum, sachez-le, hein, c'est un sujet qui m'est cher parce que j'ai aussi... Je suis petite fille d'immigrés et que c'est des choses qui nous touchent. Personnellement, on ne fait jamais les choses, on ne s'engage jamais par hasard dans nos vies. Je pense que ce soit vous, que ce soit moi. Voilà, donc vous pouvez compter sur moi là-dessus, sachez-le. Je vous souhaite une belle journée.
Merci à vous. Merci de nous avoir reçus et de nous avoir écoutés. Merci.
Avec grand plaisir, comme d'habitude.
Je suis Zora Amoulage, je suis déléguée à la Fédération des centres socioculturels du Bas-Rhin depuis 14 ans. Alors, on a eu l'occasion de venir en préfecture, d'être reçue effectivement par des représentants de l'État. Mais là, je vous avoue que c'est la première fois qu'on a une préfète qui est autant au fait de nos problématiques sur la question de l'apprentissage du français.
Qu'est-ce que ça peut vous apporter, à votre avis ?
Une écoute, mais au-delà de l'écoute, de l'action. C'est surtout ça, c'est que d'un côté, on a des résultats assez rapides, mais aussi une interface avec les décisions qui peuvent être prises au niveau gouvernemental, puisqu'elle entend ce qu'on dit et elle peut en échanger aussi auprès du gouvernement.
On sait qu'on est sur un territoire d'immigration. Et en effet, il y a un besoin fort dans le département. Ça revient de partout. Tant quand on discute avec les entreprises... qui explique que c'est un des freins parfois à l'emploi, à l'insertion professionnelle dans l'entreprise. Quand on discute avec les acteurs associatifs, quand on discute avec les habitants dans les quartiers, c'est un sujet qui revient régulièrement, cette question de l'apprentissage de la langue. Forcément, je me sens à l'aise et si je peux apporter ma plus-value en tant qu'ancienne formatrice de formateurs en français langue étrangère, j'essaye de le faire au mieux et j'essaye surtout d'être en soutien auprès des acteurs du terrain.
Est-ce que à la place que vous occupez aujourd'hui, vous avez l'impression justement de pouvoir faire avancer ces questions plus vite que lorsque vous étiez sur le terrain ou professeur ou militante ?
Disons qu'on peut agir concrètement pour que les structures aient les moyens d'agir. C'est quand même un levier assez exceptionnel. On est dans un moment difficiles, de contraintes budgétaires. Donc il faut qu'on jongle avec les différents budgets. C'est un exercice complexe. Je pense que j'ai les moyens aujourd'hui de pouvoir les épauler. De toute façon, pour moi, c'est un fil conducteur, c'est un combat pour l'intérêt des plus vulnérables, des habitants, les plus précaires, les plus isolés, les plus délaissés. Le combat continue dans les fonctions qui sont les miennes aujourd'hui, différemment, mais avec la même ténacité, la même détermination en tout cas.
Une semaine dans la vie de Marilyn Poulain, dernier épisode demain.
France Inter, le 13-14.
C'est la France. Le jeudi à 13h50, nous parlons gastronomie avec Marilus Ribaud du journal Sud-Ouest. Marilus, Donald Trump agite la menace de nouveaux droits de douane pour l'Europe et nos agriculteurs sont concernés.
On ne va pas crier au loup avant d'avoir mal, mais les producteurs de vin ou de cognac gardent le souvenir de cette sale migraine qui les avait frappés sous Trump premier quand il avait imposé une augmentation de 25% des droits de douane. Alors bien sûr, quand des bruits de bottes se font à nouveau entendre, l'inquiétude de pointe.
On a beaucoup à perdre ?
Oui, Jérôme. C'est même un rapport très asymétrique, souligne Charlotte Hemlinger, économiste au Centre d'études prospectives et d'information internationale. Nous exportons pour 6 milliards de dollars de produits agricoles vers les États-Unis. Et nous en importons seulement 175 millions. Le calcul est vite fait, Jérôme. Ce n'est pas en lançant l'assaut contre quelques pots de beurre de cacahuète demandant à entrer en France que nous allons sauver nos vins en carafe à la frontière américaine. Les vins et les spiritueux, c'est toujours d'eux qu'on parle quand la menace enfle. On peut le comprendre, ils représentent 4 milliards de dollars, soit 72% de nos exportations vers les États-Unis. Les Américains importent également du pain et des viennoiseries congelées, des biscuits et de la confiture, mais aussi du fromage, à condition qu'il soit pasteurisé, et de plus en plus de produits laitiers. Nous, nous importons du vin, beaucoup d'amandes, un peu de poisson et de crustacés, ainsi que du soja, destiné à l'alimentation animale.
Pour autant, et vous l'avez rappelé, la guerre n'est pas encore déclarée.
Selon Charlotte Hemlinger, Donald Trump est pour l'heure plus préoccupé par la protection de ses produits manufacturés et il a tout intérêt à ce que les fermiers américains continuent à exporter. L'Union européenne a été épargnée des premières attaques à visée commerciale, mais les produits agricoles français pourraient bien être les victimes collatérales de mesures de rétorsion.
Les Américains sont toujours friands de la gastronomie française ?
Daniel Boulud, qui est installé aux États-Unis depuis les années 80, est propriétaire d'une quinzaine de restaurants. Celui de New York affiche même 2 étoiles Michelin. À l'opposé de nos préjugés, il loue d'ailleurs l'incroyable amélioration de la qualité des produits alimentaires américains, ainsi que la créativité des chefs, stimulés par ce qu'il y a de meilleur dans ce pays, le melting pot de ces cultures. Toutefois, les Américains qui voyagent sont friands de la cuisine et des produits français, souligne Daniel Boulud, qui importe toujours de France de la truffe, des sols, des turbots, des légumes spécifiques comme la mâche nantaise ou les crônes, mais aussi des champignons, de la vanille de Tahiti, de la farine pour ses pains et pâtisseries, les beurres de chez Bordier, les purées de fruits Boiron, les huiles de l'huilerie Beaujolaise et toute la vaisselle. Si les taxes douanières augmentent, je crains que tout cet approvisionnement, notamment les produits de la pêche, se tarissent, nous dit-il.
Daniel Boulud, qui nous propose donc une recette.
Celle, des cannelés. Gâteau bordelais qu'il offre à chaque client après le repas. Attention, c'est précis.
Cannelés new-yorkais.
Voilà, faites infuser pendant une heure une gousse de vanille fendue dans 434 grammes de lait entier préalablement chauffé. Retirez la gousse, ajoutez du lait pour retrouver le niveau initial. Puis 30 grammes de beurre et vous montez le tout à 80 degrés. Fouettez un œuf entier avec 2 jaunes. Versez doucement le lait sans cesser de remuer. Mélangez 250 g de sucre avec 106 g de farine, 8 g de fécule de maïs et fouettez tout ceci dans le lait avec 91 g de rhum brun. Laissez reposer 24 heures au frais. Le lendemain, remplissez de cette pâte 12 moules à cannelés bien beurrés et enfournez 50 minutes à 200 degrés. Comme je sais, Jérôme, que vous les adorez, vous saurez désormais comment les faire.
Vous me prêterez vos moules à cannelés, par contre, Marilus.
En laiton.
Je n'en dispose pas. Merci, Marilus Ribaud du journal Sud-Ouest de C'est la France. À C'est une chanson, votre invité aujourd'hui, Frédéric Pommier, est à la fois contrebassiste et compositeur, Renaud Garcia-Fons.
Grand musicien de jazz, qui donnera à entendre son dernier album le 11 février sur la scène du Trianon à Paris. Et c'est de la musique flamenco qu'il a souhaité que l'on écoute. Bibele, interprété par le guitariste espagnol Paco de Lucía et le chanteur espagnol Camarón de la Isla.
C'est un très grand chanteur du flamenco moderne, j'ai envie de dire, qui nous a quittés à la fin des années 90. Il a eu une vie assez courte, malheureusement, mais très marquante dans l'histoire du flamenco, et notamment par son association avec Paco de Lucía. Donc c'est un chanteur un peu fondateur. Beaucoup de chanteurs aujourd'hui s'en inspirent, s'en nourrissent. Et cette musique qu'ils ont produite ensemble avec Paco de Lucía reste une référence, en fait. Et j'ai beaucoup d'attachement pour cette musique.
C'est un artiste que vous avez découvert dans quelles circonstances ?
Je m'intéresse au flamenco depuis mon enfance, déjà de par mon milieu d'origine espagnole. Donc j'ai écouté du flamenco assez jeune en famille, mais c'est plutôt vers la trentaine que je me suis mis à en écouter vraiment très régulièrement. L'album dont on parle et le titre dont on parle, qui s'appelle Biberé, Je vivrai, sort je crois en 1984, mais je me suis mis à l'écouter plutôt vers la fin des années 90, j'avais un peu de retard.
Ce morceau, Frédéric, s'appelle donc Biberé. C'est aussi le titre de l'album dont il est tiré.
Un disque formidablement novateur, c'est ce que m'a expliqué Renaud Garcia-Fons, novateur en premier lieu, grâce à la présence de certains instruments.
Il y a la flûte, notamment. Voilà, la flûte dans le flamenco, c'était inédit. Ainsi que la basse électrique, ainsi que le cajón, qui est un instrument de percussion, qui venait en fait du Pérou. Cajón, ça veut dire tiroir, en fait. Ces espèces de boîtes en bois, et c'est devenu un instrument très important dans le flamenco, et maintenant qu'on l'utilise pratiquement dans toutes les musiques.
Donc vous, vous avez une trentaine d'années quand vous découvrez cet album.
Trente et quelques années, oui. Et c'est une musique qui me donnait énormément d'énergie, que j'ai reçue, et puis cette voix de Camarón qui est vraiment impressionnante, une espèce de cri, de grito, voilà, qui me touchait particulièrement, et aussi un groove, une rythmique. Cette pièce est une bouleria très entraînante.
Est-ce que cette musique-là, elle a influencé aussi votre façon d'écrire ?
Influencé, oui, parce que ces orchestrations dans le flamenco ont fait naître en moi l'envie aussi d'orchestrer de la musique autour de thèmes peut-être plus ou moins orientaux, ou des thèmes flamenco carrément. Et justement, il y a la flûte, il y a du cajón, il y a ces instruments-là. Donc l'écoute de cette musique m'a vraiment nourri, oui, vraiment.
Qu'est-ce qu'il raconte précisément dans ce texte ?
J'ai envie de vous dire le vers qui termine la chanson. Un œillet a poussé pour égayer mes journées, c'est que dans le jardin de ma maison, il ne manque jamais de joie. Vivre et rêver, je cherche juste la liberté. Belle façon de démarrer la journée, par exemple.
Ça peut correspondre à une phrase que vous vous diriez, vous, en vous réveillant ?
En tout cas, la musique me le dit. Je rêve avec la musique, oui, c'est ça que j'affectionne particulièrement, c'est de trouver dans la musique cette dimension onirique qui me permet de m'évader et de trouver la liberté, ou d'espérer dans cette liberté que Camarón chante.
Camarón de la Isla, Biberé, c'était donc Frédéric, le choix du contrebassiste Renaud Garcia-Fons.
Renaud Garcia-Fons qui sera en concert mardi prochain au Trianon à Paris, où il jouera les titres de son nouvel album, Blue Macam.